À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Bon début de semaine tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de Sur la glace, notre balado diffusion qui parle de la Ligue américaine, qui parle de hockey junior, qui parle des meilleurs espoirs, bref, qui fait un peu le tour de tout ce qui se passe sur la scène hockey, outre peut-être ce qui se fait dans la Ligue nationale. Nous sommes le 8 novembre, ça fait déjà quoi, 5 semaines et demie que la saison est en marche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça fait environ 4 semaines que celle dans la Ligue américaine est commencée. Donc, on commence à observer certaines tendances au niveau des performances des équipes qu'on regarde d'un peu plus près. On va parler au cours de notre émission aujourd'hui avec Jacob Perrault, attaquant des Ghosts de San Diego, qui joue donc sous les ordres de Joël Bouchard et de Maxime Talbot. On va faire un petit brin de jasette avec lui. On va également parler avec Sean Larochelle, défenseur des Eagles du Cap-Breton, lui qui a gagné la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville l'an dernier et qui a été échangé dans la période estivale au Cap-Breton. Alors, passer d'une équipe championne, de jouer dans un endroit où on voyage presque pas, à se retrouver au Cap-Breton dans une équipe en reconstruction lorsqu'on a 20 ans. Bref, on va discuter des enjeux de tout ça avec lui. Je suis allé faire un tour à Shawinigan samedi et j'ai fait un brin de jasette avec lui. On va également revenir sur tout ce qui s'est passé durant la semaine au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les équipes des Maritimes qui étaient, sauf pour Halifax et Batters, il y avait 4 équipes des Maritimes qui étaient en sol québécois cette semaine, qui sont venues jouer des matchs. Il y en a pour qui ça s'est bien passé. D'autres, ça a été un petit peu plus difficile. On va évidemment parler de cette semaine du Rocket de Laval qui avait 2 matchs à disputer seulement à l'étranger en fin de semaine. Ça s'est soldé par 2 revers. C'était évidemment les débuts de Cole Caulfield avec le Rocket de Laval, mais aussi ceux de Mathias Norlinder, défenseur suédois qui a fait ses premiers pas en Amérique du Nord. Alors, j'ai pensé cette semaine, en prévision aussi des matchs qui s'en viennent sur les ondes de RDS cette semaine, parce qu'on en aura 3 à domicile, mercredi, vendredi et samedi, faire un brin de discussion avec le collègue Bruno Gervais qu'on retrouve à l'instant. Salut Bruno, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Mais ça va bien aussi. Écoute, ça va bien pour nous. Ça a été un petit peu moins bien pour le Rocket en fin de semaine. 2 défaites, seulement 2 buts inscrits en 2 matchs. Revers de 4-0 à Syracuse samedi et revers de 4-2 à Utica hier. Ça fait 4 défaites de suite. Est-ce qu'on peut parler là, d'une mini léthargie là, pour le Rocket présentement? Parce que depuis cette victoire de 5-0 là, contre les Marlies de Toronto, c'est plus difficile pour la troupe de Jean-François Houl.
Oui, mais ils ont fait face à de bonnes équipes dans ces défaites-là. Ça a été 2 défaites à la maison là, contre Rochester. Et après ça, Syracuse et Utica ce week-end. C'est 2 très bonnes équipes. Utica qui est encore invaincu depuis le début de la saison. Et des fois, surtout avec l'horaire de la Ligue américaine, ça va arriver. Ça a été vendredi, samedi pour un week-end et samedi, dimanche pour l'autre. Donc, ça s'étale sur 2 semaines complètes. Ça peut sembler très long là, quand c'est un scénario comme ça. Mais là, le Rocket a la chance d'avoir un peu plus de matchs, jouant à la maison, 3 matchs, mercredi, vendredi, samedi. Donc, ça va être intéressant pour eux de retrouver le chemin de la victoire. C'est pas évident pour Jean-François Houl, quand tu as un mouvement de personnel et des joueurs importants, c'est la réalité de la Ligue américaine. Tu viens de subir 2 échecs contre Rochester, tu vas essayer de bâtir quelque chose, améliorer. Pezzetta et Belzile quittent, c'était 2 joueurs qui avaient un énorme impact. T'sais, Pezzetta a été rappelé par le Canadien avec toute l'énergie qu'il est capable d'amener à un match, mais c'est ce qu'il faisait à Laval. Tu es constamment en train de négocier avec ce changement-là de personnel. Tu as mentionné Caulfield et Norlinder qui se présentent avec le Rocket. Tu veux rapidement les mettre dans la soupe et les insérer dans ce que le Rocket essaie de bâtir. Ça peut prendre un certain moment. Donc, je pense que d'avoir quelques bons entraînements et d'avoir 3 matchs à la maison cette semaine, va aider justement Jean-François Houle à essayer de bâtir quelque chose jusqu'au prochain rappel, la prochaine blessure, la prochaine chose qui là, devra recommencer, continuer dans cette direction-là.
Oui, pour rappeler aux gens cette semaine, le mercredi, ce sont les sénateurs de Belleville qui sont de passage. Vendredi et samedi, Bridgeport et Utica. Donc, on va revoir Utica samedi prochain, qui est, comme tu le mentionnais, une bonne formation. Quand on regarde tout ça, là, si on part de samedi dernier jusqu'à samedi prochain, c'est 5 matchs en 8 jours. Alors, ça vient quand même vite là, pour le Rocket. Bruno, je veux qu'on parle du renvoi de Cole Caulfield avec le Rocket. Les gens à Laval auront la chance de le voir pour la première fois mercredi parce que l'an dernier, souvenons-nous, il avait joué 2 matchs à Toronto à l'étranger. Et là, il a commencé avec 2 matchs à l'étranger aussi. Il n'a pas marqué depuis 12 matchs. Là. Dans son ADN, à lui, c'est de marquer des buts. Il n'en a pas marqué en 10 matchs avec les Canadiens. Il n'en a pas marqué en fin de semaine. Je n'ai pas regardé les matchs de façon, je te dirais, attentive. Je regardais en faisant d'autres activités aussi. Mais il a eu quand même de bonnes chances de marquer. Mais il reste que... Veux pas, là, va falloir que ça fonctionne pour lui, là, pour, comme on dit, la mettre dedans. Là. C'est ça son travail. Là.
Oui, ça fait partie de ce qu'il veut faire. Puis c'est certain que lui, personnellement, va s'évaluer sur le fait qu'il est capable de produire ou pas dans un match. C'est là qu'il peut avoir un impact. Moi, je pense que le premier pas est de continuer à créer des occasions de marquer. Il l'a fait. Sa mention d'aide, c'était sur un avantage numérique. C'était un 5 contre 3. Le joueur a embarqué sur la glace pour créer un 5 contre 4. Et c'est dans les secondes qui ont suivi, c'est un 5 contre 4 réellement. Mais le jeu s'est passé, c'était encore 3 joueurs qui défendaient. Ça va faire partie de son rôle. C'est la réalité de Jean-François Houle parce que tu en as un autre qui est droitier, qui peut avoir un rôle sur l'avantage numérique. En Jesse Ilonen, qui a une bonne passe présentement, un début de saison très tranquille, mais qui va beaucoup mieux dernièrement, qui crée beaucoup d'occasions. Fait que tu veux continuer à nourrir lui, mais tu sais qu'il faut que tu partages le biscuit avec Caulfield présentement. Il va trouver sa place, il va trouver sa niche, il va trouver son espèce de synergie avec certains joueurs en avantage numérique, c'en est une, à 5 contre 5. Pour lui, c'est de juste avec laisser parler son talent, sa créativité. C'est un très bon fabricant de jeu. On sait qu'il a un bon lancer. D'être capable de retrouver ces moments-là, ces endroits-là sur la patinoire où il peut être menaçant. Puis c'est un joueur de talent. Puis l'année passée, c'est une année un peu qui s'est faite là, sur l'adrénaline, complètement folle pour lui, de gagner le championnat du monde junior, ensuite de gagner au niveau universitaire avec son équipe, puis ensuite de ça, se présenter à Laval où Joël lui dit « Hey, embarque sur la glace, amuse-toi, vas-y ». La rondelle apparaît sur son bâton, il avait marqué à Toronto, puis ensuite se retrouve à Montréal, puis il fait cette course-là jusqu'en finale de la Coupe Stanley. C'est une année complètement folle. Là, cette année, il est reparti à zéro. Et des fois, c'est là qu'on a vu le départ un peu plus lent. Mais pour un joueur comme ça, c'est étape numéro un, créer des occasions. Essaie de trouver cette synergie-là, créer des occasions offensivement, puis éventuellement, on va rentrer. Mais pour lui, là, dans les 3 prochains matchs qu'on va voir à la maison, là, c'est d'utiliser là, son dynamisme pour créer offensivement.
Juste passer le message en passant, Bruno, à tous les amateurs. Ça va coûter 18 $ pour aller voir Cole Caulfield cette semaine. Habituellement, ça en coûte 150, 175. Là. Alors, pourquoi pas justement en profiter et aller encourager le Rocket à Laval. Je veux qu'on regarde certains joueurs du côté du Rocket. Laurent Dauphin a ajouté un autre but. Comment il réagit, lui, quand il voit que c'est Belzil qui est rappelé, quand c'est Pezzetta qui est rappelé? Il dit, moi, là, j'ai 7 buts en 10 matchs depuis le début de la saison. J'ai un début de saison extraordinaire. Tout marche pour moi. Il y a 2 rappels, c'est pas moi qui ai rappelé. Comment est-ce qu'on vit ça? Tu l'as peut-être déjà vécu, toi aussi, dans la Ligue américaine?
Et ça va dépendre de l'individu. Mais c'est sûr que ça devient difficile, surtout sur le long terme, surtout au point où Laurent est rendu. Depuis qu'il s'est joint à l'organisation, a tout fait de la bonne façon pour se donner une chance d'être un jour un rappel. La mentalité qu'il doit avoir, selon moi, c'est de continuer dans la même direction, c'est certain. Il n'y a pas un moment où tu vas t'apitoyer sur ton sort puis baisser un peu les bras que ça va t'aider. Il y a tout le temps quelqu'un qui regarde, il y a tout le temps des yeux sur toi, avec que ce soit l'Organisation du Canadien ou ailleurs dans la Ligue nationale qui vont avoir des besoins. C'est juste bon pour lui qu'il continue dans cette direction-là. Le rappel de Pezzetta, tu comprends. Je pense que Pezzetta amène un élément que c'est bien différent à Dauphin. C'est pas là qu'il va avoir son rappel ou son rôle. T'as Belzil qui est là, qu'on le voit, qui est sur la clôture. Il y a une espèce d'organigramme habituellement qui est là au niveau des rappels. Puis des fois, c'est très difficile de passer devant quelqu'un. Il fait les bonnes choses, il crée offensivement à chaque fois, peu importe avec le trio avec lequel il va être, il a créé parce que c'en est un cette année qui a bougé beaucoup, qui a changé de collègue. Même les deux matchs en fin de semaine, il a été changé de trio, lui et Hervé Pinard ont changé, puis il continue à créer. Il y a des matchs cette année qui a commencé sur le quatrième trio du Rocket. Il avait créé offensivement. Il fait tout ce qu'on lui demande au niveau de l'organisation présentement. Puis c'est juste de garder son mal en patience. Puis que ce soit le Canadien ou tu es rendu là, tu espères que ce soit le Canadien. Mais il y a d'autres organisations qui regardent. Il y a des dépisteurs de toutes les organisations à une grande majorité de ces matchs-là. C'est éventuellement, tu espères qu'il y en a un qui justement ouvre sa porte puis te donne une chance.
Je veux qu'on parle également d'un bonhomme qui revient au jeu cette année, Gabriel Bourque. On connaît son ADN, c'est un joueur de rôle et tout ça. Il n'a pas joué pendant un an. Là. L'an passé, il a pris congé de hockey, il revient cette année. Là, on est rendu à 10 matchs, je parlais de tendance en début d'émission. Il n'a pas marqué encore, c'est un vétéran, il a une fiche de moins 5. Est-ce que lui, en ce moment, doit se poser des questions un petit peu? Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que je suis encore capable de jouer à ce niveau-là? Comment ça peut se passer pour un bonhomme comme lui présentement?
Bien, oui, tu as entièrement raison. Puis c'est certain, surtout avec le fait, toute l'expérience qu'il a dans la Ligue nationale. Puis des fois, mentalement, ta tête est à un certain niveau parce que tu sais que tu es capable de jouer d'une certaine façon, à un certain niveau. Puis là, présentement, le corps ne suit pas ou les choses ne cliquent pas pour toi de la façon que tu aimerais. C'est normal pour un vétéran comme ça, surtout après avoir manqué une saison complète, de repartir la machine, ça va prendre un moment. Puis moi, ce que j'aime de son jeu, c'est qu'il amène encore des détails de son jeu, l'énergie, le désavantage numérique. Justement, le désavantage numérique va amener la rondelle en territoire adverse pour être capable de la garder là de plusieurs secondes. Les bonnes décisions qu'il prend sur la patinoire. T'sais, de faire la bonne chose à chaque présence, ça prend du temps à acquérir, puis c'est une chose qu'il fait avec le Rocket, la grande majorité du temps. Après ça, le côté offensif, c'est certain que tu aimerais être capable de remplir le filet ou d'avoir un impact, d'avoir un certain apport offensivement. Ça peut prendre un certain temps, ça peut être frustrant, mais selon moi, lui, c'est d'être patient avec lui-même, de se donner le temps de retrouver le synchronisme, de retrouver ces choses-là, puis à un moment donné, ça se met à cliquer, puis ça revient de ton côté. Puis après ça, c'est de continuer à jouer parce qu'il va avoir toutes sortes d'opportunités, toutes sortes de choses, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, même un jour d'un retour éventuel dans la Ligue nationale si son jeu lève d'un cran là, en deuxième moitié de saison puis qu'il est capable de venir aider une équipe. Ça pourrait être une chose pour lui, mais de continuer dans cette direction-là. Puis son rôle a complètement changé. C'est certain, quand tu reviens dans la Ligue américaine comme ça, tu es un vétéran, tu es un joueur un peu plus de support parce que c'est les gars comme Harvey Pinard, Ilonen, Paling, Caulfield qui sont mis à l'avant-plan. Fait qu'il y a vraiment un rôle de soutien dans tout ça. Fait que c'est de le faire du mieux que tu peux et de continuer. Dans le fond, faut que tu sois patient avec ça parce que c'est dur de manquer un an de hockey puis de revenir et penser que tu vas être au même niveau où tu étais. Fait que moi, je trouve qu'il fait de bonnes choses sur la patinoire dans les détails. Puis éventuellement, ça va s'inscrire là, au crayon à langue sur la feuille de pointage.
Ben écoute, Bruno, merci beaucoup pour ce petit résumé. On se voit trois fois cette semaine, trois matchs sur les ondes d'RDS, mercredi, vendredi, samedi. On est mieux de s'habituer aussi. Là, les Sénateurs de Belleville, c'est quoi? Là, c'est quatre matchs contre Belleville dans les sept prochains. Alors, on va encore voir Belleville. Belleville qui a incidemment gagné deux matchs contre Cleveland en fin de semaine. Au moment où on se parle, le Rocket est sixième sur sept là, dans sa division. Alors, en ce moment, c'est pas encore inquiétant. Mais il ne faudra pas non plus prendre du retard parce qu'après ça, ça devient difficile à combler. On l'a vu dans certaines saisons du Rocket depuis l'entrée. Alors, on se voit mercredi soir, Bruno. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous cette semaine sur la glace.
Hey, un grand plaisir. À bientôt, Steph.
Alors, je vous rappelle donc nos trois rendez-vous en ce qui concerne le hockey du Rocket Saint-Hubert cette semaine sur les ondes de RDS. Mercredi, 19h30, les Sénateurs de Belleville qui sont les visiteurs à la Place Belle. Je vous rappelle, ce sera donc l'occasion de voir à l'œuvre Cole Caulfield pour la première fois à Laval. Vendredi, les Islanders de Bridgeport seront les visiteurs. Match également présenté à RDS à compter de 19h. Et samedi après-midi, notez bien RDS Info. À 13h, les Comets de Utica, qui sont pour l'instant la seule équipe là, invaincue depuis le début de la saison, seront de passage également à la Place Belle. Donc, trois matchs en quatre jours, mercredi, vendredi et samedi. Pour poursuivre peut-être un peu en ce qui concerne la Ligue américaine, Ben, peut-être vous mentionner que le joueur de la semaine, c'est un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Martin Furk, qui va très bien présentement avec le Reign d'Ontario, club-école des Kings de Los Angeles, en 3 matchs cette semaine, 4 buts, 6 passes pour 10 points pour l'ancien des Mooseheads, qui était un coéquipier notamment de Nathan MacKinnon et de Jonathan Drouin à l'époque où Halifax a gagné la Coupe Memorial fourmontée en 2013. Furk qui s'est hissé au premier rang des marqueurs de la Ligue américaine avec 16 points en 10 matchs depuis le début de la saison. Je vous mentionnais Utica qui a 7 victoires, aucune défaite, n'a pas perdu. Dans le cas de Ontario, dans la section Pacifique, 9 victoires, aucune défaite en temps réglementaire et une défaite en bris d'égalité. Donc 19 points déjà pour Ontario sur une possibilité de 20. Il y a un joueur qui va très bien, un ancien du Rocket, Jake Lucchini, qui est le meilleur marqueur des Sénateurs de Belleville. 11 points depuis le début de la saison en 10 matchs. Il sera de passage, comme on le mentionnait, à la Place Belle mercredi. J'ai eu envie de pousser un petit peu plus loin mon segment sur la Ligue américaine cette semaine pour réaliser une entrevue avec la recrue Jacob Perrault. Ben, je dis la recrue, il a joué à 18 ans l'an dernier avec les Gulls de San Diego. Il aurait normalement dû jouer avec le Sting de Sarnia dans la Ligue de l'Ontario. Mais évidemment, en raison de la COVID, il n'y a pas eu de hockey dans la Ligue de l'Ontario. Donc, certains joueurs de cette Ligue-là ont eu la chance de jouer des matchs au niveau professionnel dans la Ligue américaine. On se souvient de Yann Michak avec le Rocket de Laval notamment. Les organisations professionnelles avaient l'option de garder ces joueurs-là dans la Ligue américaine cette année à 19 ans ou de les retourner au niveau junior. Le Canadien a décidé de retourner Michak avec les Bulldogs d'Hamilton dans la Ligue de l'Ontario. Mais dans le cas de Jacob Perrault du Sting de Sarnia, ben son équipe professionnelle, les Ducks d'Anaheim, a décidé de le garder dans la Ligue américaine. Donc, il est présentement le meilleur pointeur de la formation dirigée par Joël Bouchard et Maxime Talbot à San Diego. Et il a la chance de poursuivre son apprentissage. Alors, il aura somme toute joué seulement 2 ans dans les rangs juniors, soit à 16 et 17 ans. Et là, depuis 2 ans, maintenant sa deuxième année, il joue dans la Ligue américaine. On a réalisé une entrevue il y a quelques jours avec Jacob Perrault. On a eu des petits pépins techniques, donc on n'a malheureusement pas l'enregistrement de l'entrevue au complet, mais on en a quand même un bon segment et surtout une partie importante que je voulais aborder avec lui, et vous allez l'entendre dans l'entrevue. Jacob Perrault a décidé de se tourner du côté américain pour son éventuelle participation au championnat du monde de hockey junior. Il a été retranché chez les moins de 18 ans au niveau canadien. Ça a laissé quelque peu des séquelles. Son jeune frère joue dans le programme américain. Il a la double nationalité. Évidemment, Jacob Perrault, là, c'est le fils de Yannick Perrault. Il parle un excellent français. Mais vous allez voir dans l'entrevue, on va aborder ce sujet-là avec lui. Et surtout, la première réponse que vous allez entendre, je le questionnais au niveau de l'avenue de Maxime Talbot comme entraîneur adjoint. Notre ancien collègue RDS, qui n'avait pas nécessairement beaucoup d'expérience comme entraîneur, a décidé de rejoindre Joël Bouchard. Donc, d'abord, Jacob Perrault sur Maxime Talbot et la suite de l'entrevue qui va suivre par après, où on parle beaucoup là, de l'aspect du fait qu'il va représenter fort possiblement les États-Unis au prochain Mondial Junior.
Il est pas mal pareil, là. C'est un gars que c'est tout mon âme. Il amène du fun dans le locker room aussi, du excitement. Puis, tu sais, il sait qu'est-ce qu'il parle. Fait que c'est bon d'avoir des tips de lui. Puis, tu sais, quand je fais un drill, puis j'arrive à faire un meilleur jeu, il montre des exemples. Il montre pas juste un exemple. Si à la place de faire ça, fais ça. Il dit, à la place de faire ça, t'aurais pu faire une affaire de même ou t'aurais pu faire ça ou quelque chose de même. Fait qu'il me donne vraiment gros des options pour. C'est vraiment utiliser mon talent offensivement.
Quand même un gars qui a marqué 2 buts dans un match numéro 7 de la Coupe Stanley, c'est quand même bon d'avoir ça. Jacob, je veux te parler du championnat du monde de hockey junior. J'ai appris la semaine dernière que c'était rendu peut-être plus du côté américain. Si tu nous expliquais ça un petit peu, ça se peut que tu joues pour les États-Unis dans le temps des fêtes?
Oui, ça dépend encore du passeport parce que j'ai pas encore eu mon passeport. Fait que ça dépend de ça, j'attends. Mais si je reçois mon passeport, je vais pour l'équipe des États-Unis.
Est-ce que c'est en raison du fait que le Canada ne t'avait pas sélectionné pour les moins de 18 ans? Est-ce que tu es resté un petit peu amer de ça?
Quoi? Ben, c'est sûr que c'est pas le fun de se faire couper les équipes. Puis, tu sais, en même temps, ça m'a motivé pour devenir un meilleur joueur. Mais aussi, je pense qu'avec le US, je vais avoir plus d'opportunités avec. Puis tu sais, je trouve que c'est quelque chose de fun. Surtout avec Zegras, qui a eu MVP l'année passée. On était roommates l'année passée. Fait que c'est vraiment quelque chose de spécial. Il m'a dit qu'il a vraiment aimé ça. Puis c'est quelque chose qui va toujours s'appeler. Fait que ça serait vraiment le fun. Puis Puis si j'ai l'opportunité de jouer contre le US, je sais que Drysdale, je ne sais pas s'il va y aller cette année, mais ce serait fun aussi de jouer contre lui puis avoir un petit rivalry entre amis.
Mais est-ce que dans ton cœur, tu te sens un Américain, Jacob?
Je suis né à Montréal, fait que tu sais, ça va être toujours, mon home, ma famille est là-bas, puis tu sais, je retourne toujours durant l'été pour les voir, mais depuis que j'ai 11 ans que j'habite aux États, puis tu sais, mon préféré joueur, c'est Patrick Kane, fait que lui aussi, c'est un Américain que j'aime ça regarder, mais ouais, tu sais, juste pour aller au championnat junior, j'aimerais ça jouer pour le US, mais tu sais, j'aime les deux ont leurs pros.
Quand est-ce que tu vas avoir la décision, l'histoire de passeport? Es-tu confiant que ça va être réglé? Est-ce que Hockey USA t'a donné une date là, qu'il fallait que ce soit réglé?
Eux autres, ils m'aident. On essaie de l'expedite, de le faire arriver plus vite, puis les autres sont notre bord avec ça. Fait que c'est vraiment à propos de... C'est out of our hands. Fait que c'est eux autres qui vont décider quand je vais avoir le passeport ou quand il va venir à mal, tout ça.
Et l'équipe américaine veut t'avoir dans l'alignement pour le temps des fêtes. Ça, c'est comme réglé.
Oui, on a parlé avec eux autres. Puis mon frère aussi, en ce moment, est en train de jouer avec le US programme. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de fun. Ça aussi, ça m'a aidé. Ça m'a influencé dans la décision pour dans le futur. Si, tu sais, il y a des tournois que je pourrais jouer avec mon frère, je trouve que ça serait quelque chose de vraiment cool.
Ton père était d'accord avec ça aussi?
Ouais.
Il y en a eu, je ne sais pas si tu es au courant, là, peut-être que je vais te rassurer, il y en a eu quelques Québécois qui ont joué pour les États-Unis au fil des années, là, si on monte plus loin, Philippe Sauvé, le fils de Robert Sauvé, qui avait eu la chance, Jean-Marc Pelletier, là, tu ne serais pas le premier à qui tu as l'occasion. Ben, écoute, Jacob, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, très, très gentil, puis on te souhaite bonne chance. Écoute, on va être à Edmonton pour diffuser les matchs, alors si Jacob Perrault joue pour les États-Unis, ben, on aura la chance de peut-être parler français après les matchs des Américains aussi. Merci beaucoup.
Ouais, ça va faire un changement un peu.
Ouais. Merci beaucoup, Jacob.
OK, merci, Stéphane.
Salut.
Alors voilà cet entretien avec Jacob Perrault, ce que vous avez raté un peu au début malheureusement, et on s'en excuse là, des pépins techniques qu'on a eu au niveau de cette entrevue-là. Ben, on y avait évidemment parlé de l'avenue de Joël Bouchard, comment est-ce que ça avait changé un petit peu, puis c'est certain qu'il amène une intensité, il amène un message différent, mais c'est le Joël qu'on a connu là, avec le Rocket de Laval, l'Armada de Blainville-Boisbriand notamment. Et je lui avais parlé aussi du fait du privilège qu'il a de jouer à 19 ans dans la Ligue américaine. Et lui, ben, est bien heureux de ça. Et c'est sûr que c'est dommage pour une équipe comme le Sting de Sarnia, qui aurait normalement dû compter sur lui cette année à 19 ans. Il avait été le premier choix du Sting de Sarnia en 2017. Alors, quand tu regardes les saisons comme ça, en 2018, pardon, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, c'est les années où le Sting aurait dû normalement compter sur lui. Et je trouve ça dommage, mais en même temps, pour lui, pour sa progression, a la chance de jouer à un niveau supérieur. Alors, il en était bien heureux. Alors, voilà pour notre segment Ligue américaine et cet entretien avec Jacob Perrault. Donc, si on le voit au championnat du monde au cours de la période des fêtes, ce sera avec le chandail des États-Unis. On va passer maintenant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Encore une fois, il y a eu une grosse semaine. Il n'y avait pas de match. Les gens se sont peut-être posé la question, il n'y avait pas de match hier dimanche, pas de match lundi, mardi, mercredi, parce que cette semaine, on devrait normalement, ça aurait dû être ce soir et demain, les deux premiers matchs de la série annuelle que disputent habituellement les équipes de la Ligue canadienne de hockey contre une formation russe. Question de préparer un peu l'aventure du championnat mondial de hockey junior. Pour une deuxième année de suite, cette série-là n'a pas lieu malheureusement, mais on avait quand même laissé l'espace dans le calendrier. Alors, c'est pourquoi il n'y avait pas de match hier au calendrier. Normalement, là, les joueurs auraient joué ce soir et demain contre les Russes, et les Russes seraient partis par la suite vers l'Ontario et la Ligue de l'Ouest. Mais pour revenir à la dernière semaine, il y a quatre équipes des Maritimes qui ont effectué des voyages au Québec là, pour la première fois. Bathurst était venu la semaine dernière et là, il y a quatre autres formations, Charlottetown, Moncton, Saint-John et le Cap-Breton, qui ont pu jouer des matchs finalement en sol québécois pour la première fois, là, pour la plupart. Si on exclut Charlottetown qui était venu jouer, Bathurst qui était venu jouer là, en série à Shawinigan et à Québec. Pour les autres, une équipe comme les Sea Dogs de Saint-John n'était pas venue en sol québécois depuis le mois de mars 2020. Alors, tout le monde était bien heureux de pouvoir, encore une fois, célébrer un petit peu plus de normalité dans les activités régulières de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, je résume un petit peu ce qui s'est passé. Bien, peut-être commencer justement par ces quatre équipes. Puis on le dit depuis le début de la saison là, que la section des Maritimes est très puissante. Charlottetown est allé chercher 2 victoires sur 3 dans son voyage. Moncton, un balayage, 3 victoires, aucune défaite. Évidemment, on a joué Baie-Comeau, Chicoutimi, Victoriaville. Peut-être pas les puissances du côté québécois, mais il reste que Moncton va très bien par le temps qui court. Dans le cas de Saint-Jean, 2 victoires et 1 défaite. J'ai vu les Sea Dogs jouer jeudi au Centre Vidéotron à Québec. Et les Eagles du Cap-Breton, 1 victoire et 2 défaites, les Eagles qui ont gagné à Victoriaville vendredi. Si on fait le tour des autres formations, les Olympiques de Gatineau ont 4 victoires de suite, 6 victoires à leurs 7 derniers matchs. Ça leur a permis de se hisser au premier rang de la section ouest. C'est souvent difficile dans le camp des Olympiques, des matchs serrés. On a besoin quelquefois là, de la prolongation des tirs de barrage. C'était le cas dans un des 2 matchs contre Baie-Comeau. Mais on est sorti quand même avec la victoire, de sorte que Baie-Comeau se retrouve avec une fiche de 7 victoires, 3 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Les Huskies de Rouyn-Noranda, aucune défaite à la régulière dans les 6 derniers matchs. Ça va quand même bien pour les Huskies. L'Armada de Blainville-Boisbriand, des hauts et des bas, on l'a dit, l'équipe a commencé la saison en force. Période creuse par la suite. Je veux souligner le travail du défenseur Miguel Tourigny. C'était notre invité la semaine dernière. Il a réussi un 2e tour du chapeau en autant de matchs. Et je fouillais dans ma mémoire un petit peu. Là, je ne me souvenais pas c'est quand la dernière fois qu'un défenseur a réalisé 2 tours du chapeau dans 2 matchs consécutifs. Il l'a fait à Shawinigan le 30 octobre et il l'a fait le 5 novembre contre les Voltigeurs à Boisbriand dans une victoire de 7-6. Alors, Miguel Tourigny a 12 buts depuis le début de la saison. C'est un sommet dans la LHJMQ, à égalité notamment avec William Dufour des Sea Dogs de Saint-John. Alors, un défenseur qui mène là, pour les buts dans la LHJMQ, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Les Cataractes de Shawinigan sont aux prises avec une longue liste de blessés. Je suis allé à Shawinigan samedi pour le match contre le Cap-Breton. On jouait sans Maverick Book, on jouait sans Xavier Bourgault, sans Charles Beaudoin, sans Zachary Massicotte. Alors, c'est certain là, que pour Shawinigan, la profondeur est mise à rude épreuve. Ça a permis aux Cataractes de rappeler un de leurs espoirs, choix de 3e ronde, Nathan Etier des Vikings de Saint-Eustache, qui est présentement le meilleur marqueur de la Ligue Midget 3A. Et Etier a marqué son premier but contre le Cap-Breton samedi dans la LHMQ. Il a 28 points en 16 matchs depuis le début de la saison dans la Ligue Midget 3A, dont 16 buts. Alors, ça donne la chance, comme je le disais, à des jeunes. On espère que dans le cas de Xavier Bourgault, ce ne soit pas trop sérieux. Il avait été blessé à l'œil, à un œil vendredi soir. On n'a pas voulu prendre de chance samedi, mais Daniel Renault me disait qu'il semblait être confiant de peut-être le revoir pour le voyage dans les Maritimes le week-end prochain. Même chose pour Beaudoin, qui devrait être en mesure d'effectuer un retour au jeu prochainement. Maverick Book, on n'a finalement pas mis une croix complètement sur sa participation éventuelle avec l'équipe Canada Junior. On a parlé d'une absence de 6 à 8 semaines. Alors, 6 semaines, là, ça nous amène à peu près à la mi-décembre, donc au moment où le camp d'équipe Canada Junior aura lieu. Est-ce que Maverick Book sera remis de cette blessure à l'épaule qu'il a subie à Boisbriand? On verra. Mais il n'était pas là, en tout cas, pour les affrontements en fin de semaine. Le Phoenix de Sherbrooke, c'est peut-être l'équipe de l'heure dans le circuit. 10 victoires à ses 11 derniers matchs. 8 et 1 depuis l'arrivée du gardien biélorusse Ivan Gigalov, qui ne perd pas souvent. Honnêtement, le Phoenix joue du bon hockey. On avait vaincu les Remparts de Québec la semaine dernière. On a vaincu les Islanders de Charlottetown. Le Phoenix qui s'en va en Abitibi en fin de semaine. Ça roule bien. Honnêtement, c'est une des belles surprises, je trouve, le Phoenix de Sherbrooke depuis le début de la saison. On va lever notre chapeau au travail de l'entraîneur-chef Stéphane Julien. Drummondville, c'est des hauts et des bas, mais il y en a un qui va très bien. C'est le jeune Justin Côté, attaquant de 17 ans, qui a été choisi joueur par excellence de la semaine dans la LHJMQ. 2 buts et 5 passes pour 7 points en 3 matchs. Donc, Justin Côté qui en est à sa 2e saison. Ça avait parti difficilement pour lui l'an dernier. Mais là, ça semble aller beaucoup mieux pour le jeune Côté. Les Tigres de Victoriaville, 3 autres défaites de suite à domicile. Et à nouveau, 3 matchs au cours desquels l'équipe n'a marqué que 3 buts. On se répète dans leur cas, là, mais on n'a même pas de moyenne de 2 buts par match depuis le début de la saison. 29 buts marqués en 15 rencontres. C'est pas simple de marquer des buts là, pour la formation de Carl Mallette. On n'a pas la puissance offensive de l'an dernier. Les Tigres vont se battre, j'ai l'impression, là, pour... le bas du classement. Je pense qu'on va être en mesure quand même de se qualifier là, pour les séries éliminatoires, mais il n'en demeure pas moins là, que c'est une année un petit peu plus difficile à la suite de cette conquête de la Coupe du Président. Les Remparts de Québec ont stoppé à 4 leur série de défaites samedi en allant gagner au Centre Georges Vézina à Chicoutimi. J'ai vu les matchs de jeudi et de vendredi à Québec, les Remparts. Jeudi, on a joué un bon match contre les Sea Dogs de Saint-John, mais on s'est incliné quand même. Et vendredi, dans le match contre Rimouski, un match bizarre où les Remparts dominent complètement la première période, 13 tirs contre 1, et en deuxième, se font complètement dominer, 16-3 dans la colonne des tirs. Evan Nause, ce défenseur, choix de deuxième ronde des Panthers de la Floride, a passé la première période sur le banc vendredi soir. Il était là comme septième défenseur, n'a pas fait une seule présence sur la glace. En début de deuxième, on lui donne deux présences au départ de la période. Une première présence où les Sea Dogs ont touché le poteau, failli se retrouver moins un. Et à sa deuxième présence, les Sea Dogs ont marqué, s'est retrouvé moins un, mais pas revenu sur la glace par la suite. Alors, du côté de Patrick Roy, on n'était pas satisfait là, du travail de Nas et on lui a fait sentir. Nas est revenu toutefois en action samedi, a pris sa place régulière à côté de Louis Crevier, son partenaire à la ligne bleue. Parlant du match de vendredi, en fin de troisième, Patrick Roy a été expulsé du match par les officiels. Il n'était pas content d'une décision et je pense qu'il était un peu exaspéré de la façon dont sa troupe jouait. Chose certaine, il n'a pas dirigé le match de samedi à Chicoutimi sous le coup d'une suspension. Il a regardé ça de la galerie de presse. C'est l'adjoint Benoît Desrosiers qui a dirigé le match pour les Remparts et d'ailleurs, il a signé la victoire. Pour revenir aux Remparts, il faut souligner aussi la signature du contrat du défenseur Louis Crevier. Avec l'organisation des Blackhawks de Chicago. Quelle histoire que celle de Louis Crevier. On va essayer de l'avoir là, au podcast, à la balado-diffusion au cours des prochaines semaines. Défenseur de 20 ans qui avait été un choix de 5e ronde dans la Ligue junior majeure du Québec, un choix de 7e ronde dans la Ligue nationale. Et souvenez-vous, les Blackhawks de Chicago l'avaient repêché en allant chercher une sélection du Canadien. Alors, lors du repêchage de 2020, le Canadien ne repêchait pas de Québécois. Rendu en septième ronde, on se dit, est-ce que le Canadien va prendre une chance avec un joueur de la LHGMQ? Ben non, on échange le choix de septième ronde aux Blackhawks de Chicago en retour d'un septième ronde de l'année suivante. Transaction qui est difficile à expliquer, mais bon. Et les Blackhawks se servent de cette septième sélection-là pour repêcher un Québécois, Louis Crevier. D'ailleurs, le collègue Michael Lalancette du journal Le Soleil a publié en fin de semaine un article pas mal intéressant sur l'histoire derrière la sélection de Louis Crevier par le dépisteur au Québec des Blackhawks, Alexandre Rouleau. Je vous invite à lire, si vous avez la chance de retrouver ça, là, vous allez trouver ça sur les médias sociaux sans problème. En tout cas, contrat pour Louis Crevier des Remparts de Québec. L'Océanique de Rimouski, vendredi, à la suite de la victoire à Québec, le fameux match dont je vous parle où Patrick Roy est expulsé, le CNEC a pris la tête du classement général. Il n'y a pas grand monde qui s'était dit en début de saison, après 5 semaines, le CNEC va être au premier rang. Le CNEC a perdu samedi à Sherbrooke, mais joue du bon hockey depuis le début de la saison. Les jeunes se développent bien. J'ai fait un brin de causette avec Serge Beausoleil vendredi avant le match à Québec et il me racontait que la progression là, des jeunes va se faire lentement, mais sûrement, mais on est très satisfait là, du travail, notamment des Coursols, Maël Saint-Denis, là, des jeunes de 16 ans qui jouent dans l'équipe présentement. Coughlin également, le défenseur. Serge m'en disait beaucoup de bien. Malheureusement, il est blessé en ce moment. Mais l'Océanique est sur une trajectoire, évidemment, pas pour gagner les grands honneurs cette année, mais à partir de l'an prochain et surtout dans 2 ans, je pense qu'on va revoir l'Océanique. Là, l'après Lafrenière va être consommé là, du côté de l'Océanique. Les Sags, c'est un petit peu plus difficile. 6 défaites en 7 matchs. Chicoutimi non plus, là, on a de la difficulté un peu à inscrire de l'offensive. C'est moins pire qu'à Victoriaville, évidemment, là, mais mis à part un match contre Batters, là, la plupart du temps, c'est 1-2 buts dans les matchs des Saguenayens. C'est une équipe qui est jeune, qui va se battre là, dans la deuxième portion du calendrier. Le Drakkar de Baie-Comeau, ben, 3 autres défaites. On est quand même allé chercher là, des points à la suite de 2 défaites en tir de barrage contre Moncton à la maison mercredi et dans le premier de 2 matchs à Gatineau vendredi. Ce qui inquiète du côté du Drakkar, ce sont les assistances. Je vous en parlais un peu la semaine dernière, là, les assistances qui sont à la baisse de 22% dans la LHGMQ. Quand on regarde ce qui se passe à Baie-Comeau, il n'y avait pas 1 000 spectateurs pour le match de mercredi. J'aime à penser là, qu'il y aura un redressement qui va se faire bientôt. On a beaucoup parlé là, du fameux passeport vaccinal et du masque qu'on doit porter qui peut-être freinait les ardeurs de certains partisans, mais il en demeure pas moins là, que c'est inquiétant de voir certaines foules. Je vous ai parlé en début de segment des équipes des Maritimes qui ont bien fait. Il y a Acadie Batters et Halifax qui ont divisé les honneurs de leur série aller-retour en fin de semaine. Le Titan qui a finalement stoppé à 7 sa série de défaites. Lors du passage des Eagles du Cap-Breton vendredi à Victoriaville, on en a profité pour souligner le passage de Sean La Rochelle, qui est un défenseur qui a joué pour Victoriaville au cours des dernières années et qui a gagné la Coupe du Président avec cette équipe-là en juin dernier à Québec. C'était sa première et seule visite avec sa nouvelle équipe des Eagles du Cap-Breton, qui en ont fait leur capitaine cette année. On lui a réservé un bel accueil. Samedi, avant le match à Shawinigan, j'ai fait un brin de causette avec Sean de La Rochelle, parler un petit peu de la vie qui est différente au Cap-Breton que ce ne l'était à Victoriaville. Et on est revenu évidemment sur cet hommage qu'on lui a rendu vendredi et sur la conquête de la Coupe du Président. Voici donc Sean de La Rochelle, capitaine des Eagles du Cap-Breton. Alors, je vous en parlais en début d'émission, notre invité, Sean La Rochelle, des Eagles du Cap-Breton. Sean, j'ai envie de te demander premièrement, c'est quoi la vie au Cap-Breton quand on a passé sa carrière au Québec et on se retrouve échangé à 20 ans dans l'équipe la plus loin de la Ligue?
Ouais, c'est sûr que c'est extrêmement loin, comme tu as dit, mais tu sais, les paysages là-bas, c'est incroyable. Puis on a eu la chance de faire quelques activités en équipe. Puis on est très choyés d'être là-bas. C'est un mode de vie assez relax. Là. Le monde, il arrête dans la rue pour te dire bonjour. Là. C'est un petit peu différent qu'ici, mais... on est très bien là-bas. Là.
Quand tu as appris cette transaction-là, comment tu as réagi au départ?
J'ai entendu au début des rumeurs pendant les playoffs l'année passée. Ça m'a joué dans la tête un peu. Là. Je vais pas te mentir avec ça. Puis non, j'étais content. J'étais content d'essayer de quoi de nouveau aussi. Tu sais, Sean Allemand, il venait de là. Félix Paré, il a été échangé là aussi à Noël. Puis tu sais, j'ai entendu que du bien sur l'organisation. Fait que j'étais content d'essayer ça.
C'est la distance le problème, parce que l'organisation comme telle traite bien les joueurs puis tout ça. Dans le fond, quand tu joues dans la LHJMQ, aller au Cap-Breton, c'est toujours comme un peu la fin du monde. Là, t'es sur le contraire. C'est-tu aussi pire que tu pensais, les voyages?
Non, c'est vraiment pas aussi pire qu'on le pense. C'est sûr que c'est extrêmement loin, mais comme tu as dit, l'organisation traite super bien leurs joueurs. Puis, on part... toutes les games, on part la journée avant. Fait que il n'y a pas de Victor Sherbrooke ou Victor Drummond des 45 minutes de boss. Fait que non, c'est vraiment différent, mais on est très bien traité.
Côté hockey, ça devient plus difficile. Vous avez moins de séances d'entraînement. Il y a besoin de plus de repos aussi.
Oui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup plus de vidéos. Je pense que les coachs essaient d'amener cet aspect-là le plus possible, là, d'apprendre les joueurs, le système puis tout, vu que justement, on n'a pas beaucoup de chance à pratiquer. Là.
Vous êtes dans une division extrêmement difficile. Là. Tu regardes les équipes depuis le début de la saison, ils vont bien. Saint-Jean est en train de se replacer. Puis tu sais, vous êtes un peu jeune. Toi, à 20 ans, arrivé là, c'est un peu. C'est pas ça qu'on veut généralement. Pour finir, on va essayer de gagner. Je sais que tu as gagné l'an passé avec Victo, là, mais.
Mais ouais, c'est ça. L'équipe est super jeune. Puis tu sais, les équipes comme Charlottetown sont en train de se monter des clubs assez forts. Fait que c'est pour ça, avec l'expérience de l'année passée, j'essaie d'apprendre ça aux jeunes. J'essaie de leur montrer un peu les. Vers quel chemin s'enligner, fait que c'est ça que j'essaie d'apporter cette année à ce club-là.
On a souligné ta venue à Victoriaville, tu as eu reçu ta bague. Comment tu as vécu ça?
Très, très émotif. Ma famille a eu la chance de venir aussi. Fait que non, c'était un super de bel hommage. Puis, tu sais, les Tigres ont super bien fait ça. Non, c'était vraiment bien.
Comment est-ce qu'on a vécu tout cet après-là, cet été? Parce qu'il y a eu la joie de la victoire, mais tu sais, il y a eu aussi la mauvaise histoire qui est sortie.
Ouais, ça, je sais pas. Ça me tente pas trop d'en parler, là, mais... Mais... Ouais, puis tu sais, on dirait que le monde a comme oublié qu'on a gagné. Ça, c'était quand même plus plate, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus, parce que...
Mais comment t'as passé l'été en champion de la Coupe du
C'était super bien. J'ai eu une journée avec la Coupe, puis on a eu la chance aussi d'être encore une fois toute la famille ensemble à un hôtel à l'Estérel à Québec, fait que c'était malade. C'était vraiment nice.
Comment tu vois la suite pour toi, rendu à 20 ans, pas repêché, puis ça, tu y crois toujours ou tu vas prendre une autre avenue?
Ouais, j'y crois toujours. Tu sais, je me dis toujours en anglais « last dance ». Fait que, tu sais, j'y vais un jour à la fois, puis j'y crois toujours, mais après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe.
Les objectifs avec votre équipe cette année, c'est quoi? On veut faire progresser les jeunes?
Progresser les jeunes, puis on essaie de gagner pareil. Mais c'est sûr que ça va être extrêmement difficile, surtout dans la division qu'on est, fait que... on y va un jour à la fois, comme j'ai dit avant, puis on va voir qu'est-ce qui arrive.
Ça devient-tu des fois un petit peu décourageant parce que les victoires sont pas toujours au rendez-vous? Là?
Pas toujours au rendez-vous, mais des fois, je trouve que l'équipe progresse parce qu'on a eu beaucoup de games qu'on a perdu en prolongation ou en shootout. Fait que tu sais, on est tout le temps là quand même, on est capable de compétitionner contre les équipes. Fait que il manque juste un petit edge des fois qu'on pourrait aller chercher de plus. Là.
L'entraîneur, puis tout ça, quand t'es arrivé, il t'a donné le C de capitaine, on t'a fait confiance tout de suite?
Ouais, je pense qu'il est allé avec l'expérience aussi, puis les matchs aussi en playoff, puis tout, il se basait vraiment sur l'expérience. Fait que je pense que c'est pour ça. T'sais, comme tu as dit, on a beaucoup de jeunes aussi, fait que. Il m'a fait confiance dès le début. Là.
Le fait que vous avez gagné dans des situations différentes, ça a-tu enlevé un peu de cachet de ne pas être devant votre foule puis tout ça? Moi, j'étais là au match d'ouverture à Victo, puis on voyait que les gens étaient contents de revoir l'équipe, mais ils ont manqué quand même la célébration qu'il aurait pu avoir là, si on avait été dans des conditions plus normales.
C'est sûr que, comme tu as dit, c'est super différent, mais au bout de la ligne, notre nom est gravé sur la coupe, fait qu'on est extrêmement content de ça aussi.
Bonne continuité.
Merci beaucoup.
Alors voilà, Sean Larochelle des Eagles du Cap-Breton. J'ai vu les images de vendredi soir. Il était effectivement très émotif lorsqu'on l'a présenté en début de match. Les Eagles qui ont 4 victoires seulement en 16 matchs depuis le début de la saison. Et 3 de ces 4 victoires-là ont été acquises en tir de barrage. Donc, une seule victoire à la régulière. Ça se passait le 22 octobre contre les Foreurs de Val-d'Or. Un gain de 2-0 à la maison. C'est une équipe, mine de rien, là, qui est allée 6 fois dans ses 8 premiers matchs en bris d'égalité. Donc, ça rejoint un peu ce que Sean nous disait à propos du fait qu'on n'est jamais très loin dans le match. Samedi à Shawinigan, c'était 3-2 en troisième période. On espérait revenir. Finalement, les 4 sont marqués 2 buts pour se sauver avec une victoire. Les Eagles qui vont jouer leurs 3 prochains matchs à la maison avant de revenir pour un autre voyage au Québec contre les Remparts, les Saguenayens et le Drakkar un petit peu plus tard au mois de novembre. Je veux vous parler, avant qu'on se laisse, de deux autres sujets. D'abord, on a annoncé la semaine dernière la tenue d'un tournoi un petit peu différent qui aura lieu du 26 novembre, au 1er décembre. Ça va se passer à Ottawa, au domicile des 67. On a appelé ça le défi de la capitale. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, où ça se serait terminé probablement hier ou samedi, on aurait eu le défi mondial des moins de 17 ans, qui est un tournoi qui regroupe 3 formations canadiennes, les rouges, les noirs, les blancs. On vous présente ça à RDS depuis quelques années. Et à ça s'ajoutent les Américains, les Russes, les Tchèques, les Suédois, les Finlandais. On fait un tournoi à 8 équipes et le Canada est divisé en 3. Donc, ça permet à 66 joueurs de moins de 17 ans de se tremper un peu le pied dans le programme de Hockey Canada. Évidemment, en raison de la pandémie, cette compétition-là, sous cette forme actuelle, a été annulée l'an passé. Et cette année, on l'a annulée, mais on a décidé de faire une compétition quand même pour permettre à ces 66 jeunes-là de goûter un petit peu au programme canadien. Donc, du 26 novembre au 1er décembre, on va emmener ces 66 joueurs-là, qu'on a nommés d'ailleurs la semaine dernière, de moins de 17 ans, qui proviennent d'un peu partout au Canada. On va faire 3 équipes, les mêmes 3 équipes qu'on fait habituellement, Canada rouge, Canada blanc, Canada noir. Et à cela, on va ajouter, et ça, je trouve que c'est une idée intéressante, l'équipe nationale canadienne féminine qui se prépare pour les Jeux olympiques, qui va participer à la compétition. Donc, il y aura 4 équipes dans le tournoi, les 3 équipes U17 canadiennes et l'équipe des femmes. Ça va commencer le 26 novembre, donc vendredi dans 3 semaines, un petit peu moins de 3 semaines. Et il y aura comme ça des matchs à tous les jours pendant 5 jours pour déterminer un champion le mardi soir, le 1er décembre. Alors, je vais sûrement aller faire un tour de ce côté-là. Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, va diriger une des 3 formations. Carl Mallette sera également un adjoint pour une des 3 formations canadiennes. Et c'est Philippe Boucher, le directeur général des Voltigeurs de Drummondville, qui chapeaute le programme des moins de 17 ans au Canada cette année. Alors, on sera sûrement en mesure de reparler tout ça là, à l'approche de cette compétition-là. Il y a 16 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de moins de 17 ans qui ont été choisis et 3 autres joueurs qui évoluent dans la Ligue Midget 3A, qui vont se greffer également à ce groupe pour un total de 19 joueurs donc du Québec, si on veut, ou des Maritimes et du Québec. Les trois joueurs de la Ligue Média 3, je vous ai parlé de Nathan Étier tantôt, là, des Vikings de Saint-Eustache, il sera là. Alexis Bourque de l'Intrépide de Gatineau et le gardien Kyle Hagan des Lions du Lac-Saint-Louis. Alors, ces trois-là, plus 16 joueurs de la LHMQ, je ne vous les nommerai pas les 16, mais des bonhommes comme Tyler Peddle de Drummondville, Ethan Gauthier de Sherbrooke, là, les joueurs qui ont été repêchés dans le dernier dans la dernière séance de sélection, ont la chance donc de participer à cette compétition-là. Alors, j'imagine que ce sera extrêmement intéressant à surveiller. Ce n'est pas la même chose que d'habitude, mais au moins, on va être capable d'avoir un semblant de compétition et surtout, on va permettre à ces jeunes-là de commencer à se connaître parce que c'est ça le but. À l'époque, les moins de 17 ans, on faisait ça par région. Tu avais l'équipe du Québec, l'équipe des Maritimes, l'équipe de l'Ontario, de l'Ouest, du Pacifique, mais on restait ensemble. Là, depuis quelques années, on mélange dès l'âge de 16 ans. Dans le fond, on mélange dans l'équipe des Noirs, il va y avoir des gars du Québec, des gars de l'Ontario, des gars de l'Ouest, etc. Alors, on va commencer déjà à se connaître. Et certaines chimies, des fois, sont capables de s'opérer un petit peu dans ce genre de compétition-là, qui permet par la suite au programme des moins de 18 ans et des moins de 20 ans, le cas échéant, de revoir ces jeunes-là là, qui vont progresser au fil des ans. Alors, les joueurs qui vont être là cette année à ce programme-là, bon, on va les voir avec Équipe Canada Junior 2024-2025, et c'est comme ça qu'on grimpe un peu là, dans l'échelle du programme canadien. Toujours pas de nouvelles du retour éventuel de Hendrix Lapierre avec le Titan d'Acadie Bathurst. Hendrix Lapierre qui s'aligne avec les Capitals de Washington. Évidemment, lorsqu'il va approcher les 9 matchs, on devra prendre une décision. On peut le retourner quand même après 9 matchs, il n'y a pas de problème, sauf que les Capitals devront perdre une année de contrat dans son cas. Alors, généralement, là, quand on arrive au 9e match, c'est pas mal là qu'on prend les décisions pour les joueurs de moins de 20 ans. Est-ce que Hendrix Lapierre éventuellement reviendra avec le Titan d'Acadie Batters? Est-ce qu'on va étirer ça là, pour peut-être l'amener jusqu'à Équipe Canada Junior? On verra bien. Mais c'est un dossier qu'on suit. Je veux souligner le premier but dans la Ligue nationale de Benoît-Olivier Groulx avec les Ducks d'Anaheim. Il a marqué dans un filet désert hier soir pour son premier dans la Ligue nationale. C'est peut-être pas la façon la plus glorieuse de marquer son premier but, mais il en demeure pas moins que c'est un but dont il va se rappeler toute sa vie. Benoît-Olivier Groulx qui a joué avec, évidemment, les Wildcats de Moncton pour terminer et qui avait joué aussi pour les Moussets d'Halifax au départ. Je veux souligner aussi, finalement, la première victoire comme entraîneur-chef d'André Tourigny dans la Ligue nationale à la barre des Coyotes de l'Arizona. Ça n'a pas été facile, ça a pris 12 matchs. J'ai échangé message texte avec André pour le féliciter. Je pense que c'est un soupir de soulagement. Quand tu arrives comme entraîneur recrue dans la Ligue nationale, on sait que l'Arizona n'a pas une grosse équipe cette année, mais d'en perdre 11 de suite là, pour commencer la saison, commencer sa carrière dans la Ligue nationale, c'est sûr que c'est un peu difficile. Alors, c'est une victoire qui a été acquise face au Kraken de Seattle. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait pour vous cette semaine sur la glace. Je veux remercier Bruno Gervais, notre collègue qui était là en début d'émission pour nous parler du Rocket. Merci à mes invités également, Jacob Perrault des Gulls de San Diego et Sean Larochelle des Eagles du Cap-Breton. À la technique, François Perrault, à la coordination, Luc Dansereau, à la recherche, Christian Daou. Merci à tous d'avoir été là, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.